En ce début d'année 2025, bigre, déjà 2025, on en parlait au Conseil, on est déjà un quart de siècle dans ce 21e siècle. C'est fou comme le temps passe. Et nous avons la joie, le privilège, enfin j'espère, de revenir à notre série de prédications sur la première lettre que Paul a écrite aux chrétiens de Corinthe, dans la bonne ville de Corinthe, en Grèce. Vous avez le plan là, qu'il a écrit dans les années 50, au milieu des années 50 du premier siècle. Alors on va pas tout récapituler, mais on pourrait intituler cette première lettre aux chrétiens de Corinthe, à l'église de Corinthe, comme étant comment inventer la vie qui va avec, ou à vous d'inventer la vie qui va avec. C'était la pub pour la Clio ou une petite voiture. Non, vous vous souvenez pas? C'était au 20e siècle, hein. À vous d'inventer la vie qui va avec. Et donc, pour les Corinthiens, Paul leur dit, écoutez, à vous d'inventer la vie chrétienne qui va avec l'Évangile. Et c'est pas si facile que ça. Ils vivent dans un monde complexe, ce sont des chrétiens de première génération, dans les années 50, 55, 56, 57. Jésus est mort et ressuscité il y a quelques décennies seulement. Et j'épingle quelques épisodes, pas tous, mais dans le cadre de comment inventer la vie qui va avec, l'Évangile, comment vivre avec cette nouvelle identité de chrétien et cette question de la sainteté, comment être saint dans ce monde, la question de comment construire sa vie en tant que chrétien, la question de la discipline dans sa vie, comment mener une vie disciplinée, la question de comment gérer ce corps, comment vivre ce corps, que faire de ce corps et de ses pulsions ou de ses désirs. Comment s'adapter, se faire tout à tous dans ce monde. Et puis, chapitre 12, que faire avec les dons spirituels, les fameux charismata. Ça, c'était en décembre, novembre, je ne sais plus trop. Et après le chapitre 12, nous arrivons, devinez où, au chapitre 13, que nous allons lire ensemble. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne serai rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi, jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à même ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter sans l'amour, cela ne me servirait de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas comme les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin, les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance d'ailleurs est partielle, et partielles sont nos prophéties, mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. En somme, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus importante, c'est l'amour. Magnifique texte, poétique, un brin romantique même, on lit souvent ce passage lors des mariages à l'église, parce qu'il parle d'amour et il en parle tellement bien. Il est d'ailleurs tellement beau ce passage que certains spécialistes, ou oui, soi-disant spécialistes, ont dit que c'était pas de Paul, ou que Paul faisait là une digression. Mais d'autres, et moi je dis que ce n'est pas une digression, ce chapitre d'1 Corinthiens 13 est parfaitement là où il doit être, entre le chapitre 12 et le chapitre 14. Ça, c'est un punchline. Hein ? Il est parfaitement où il doit être. Je m'explique, le fameux chapitre 13. L'amour, toujours. L'amour en sandwich. Au chapitre 12, Paul parle, l'apôtre Paul, parle des dons, les dons pour servir. On l'a vu ça. Au chapitre 14, il reparle des dons, les dons en question, parce que ça se questionne au niveau des dons. Et entre les deux, Paul parle d'amour, toujours. Parce qu'à Corinthe, il semblait avoir tous les dons, se vanter d'avoir tous les dons. Et ces dons, il les utilisait peut-être à tort ou à raison, peut-être dans l'excès. Et donc, Paul est obligé de rétablir au milieu de ces questions sur les dons, enfin est obligé, est inspiré par l'Esprit-Saint de parler d'amour. L'exercice des dons sans l'amour, ce n'est rien. L'amour et les charismes. L'essentiel, pour Paul, ce n'est pas la pratique de tel ou tel don, aussi spirituel soit-il. Ce qui est essentiel, c'est la pratique de l'amour. Le but de Paul n'est pas de chanter l'amour comme les troubadours, mais d'appeler les chrétiens de Corinthe à aimer concrètement, pratiquement, au quotidien. Leur rappeler que l'amour n'est pas une option facultative dans la vie chrétienne qu'il faut inventer avec l'Évangile, mais que l'amour est un incontournable, un indispensable de la vie chrétienne. Et c'est le premier point, l'amour incontournable, versets 1, 3. Et dans ces premiers versets, Paul va faire des comparaisons très imagées. Il va reprendre quelques-uns de ses dons, justement, de ses charismata, énumérés au chapitre 12, avec peut-être une pointe d'ironie. Alors, supposons que je ou que j'ai tous les dons. On imagine, on est dans les suppositions. Et le premier, c'est, imaginons que j'ai toutes les langues des hommes, comme les langues à la Pentecôte, quand ils reçoivent l'Esprit et qu'ils parlent des langues inconnues d'eux, mais reconnues par les personnes des différentes nationalités, et la langue des anges. Si je parlais la langue des anges, est-ce qu'il y a une langue des anges ? Est-ce que les Corinthiens prétendraient parler la langue des anges ? On ne sait pas. Ou peut-être que Paul se moque un peu d'eux. Je vous rappelle que Paul est un rhétoricien, il peut être ironique parfois. Et il dit, si je parlais couramment la langue des anges imaginaires ou la langue des elfes, dans le Seigneur des Anneaux. Bref, le nec plus ultra en matière de langage spirituel, si je n'ai pas d'amour, je fais du bruit pour rien. Suis la prophétie ou la connaissance des mystères. Ce n'est pas vraiment un don spirituel, mais c'est une référence aux religions qui commencent à éclore à l'époque, les religions des mystères, le gnosticisme qui est en germe là, des choses mystérieuses révélées seulement aux initiés. Si je connaissais tous les mystères les plus profonds, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et puis, il y a le don de la foi. On a tous rêvé de cette foi qui permettrait de soulever des montagnes ou de les déplacer. Mais il y a peut-être encore un sourire de Paul, encore une fois, envers ces Corinthiens qui se croyaient les haltérophiles de la foi, les grands costauds de la foi. Si vous aviez de la foi jusqu'à même transporter des montagnes, entre parenthèses, ça ne sert pas à grand-chose hein, de transporter des montagnes ou de déplacer les montagnes. Ça change le paysage, mais ce n'est pas bon pour l'humanité. Mais si vous aviez, allez, la foi jusqu'à même transporter des montagnes, si vous n'avez pas d'amour, ça ne sert à rien. Et puis le dernier, un petit peu particulier, Paul nous parle d'un comportement qui, justement, donnait sa vie pour les autres, qui semble nous parler d'amour, de partager avec les autres, de livrer sa vie pour les autres. Tout semble très bien dans cette histoire. Mais patatras, si je le fais pour me vanter, si je le fais pour jouer la comédie, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Et le mot « rien » fait mal, n'est-ce pas ? Rien de rien, et ça vous fait dire qu'il n'y a rien sans l'amour. Et cela nous laisse un petit peu songeurs quand on pense à toutes les choses que l'on fait, et dont nous pouvons tirer peut-être une certaine fierté, mais dans lesquelles on manque un peu, beaucoup, passionnément d'amour. Ça laisse songeur. Alors, arrivé à ce stade, voilà, si je n'ai pas l'amour, donc là, je suis comme une cymbale, boum, les gongs, qui fait des sons lourds, cela ne sert à rien. Alors quand on parle d'amour, on peut se poser la question de quoi parle-t-on exactement ? On peut parler d'amour des jours entiers sans vraiment savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'une émotion, d'un sentiment, d'un goût pour certaines choses ? Toi et les langoustes de Cuba, je vous aime. C'était une pub du 20e siècle aussi. Mais certains... D'ailleurs, je lisais dans un journal que l'amour serait simplement une question chimique, une question hormonale. On a tout et n'importe quoi quand on parle d'amour. Wikipédia disait, la définition, « L'amour désigne un sentiment d'affection et d'attachement envers un être. » Je vous laisse lire la suite. Envers un être ou une chose qui pousse ceux qui le ressentent à rechercher une proximité. Ah, c'est pas mal. Mais c'est un peu vague. Moi, j'aime le cassoulet de Castelnaudary, et donc je recherche une proximité auprès du cassoulet de Castelnaudary. Ouais, mais on est loin de l'amour dont la Bible parle. Et donc Paul et les auteurs du Nouveau Testament, ils avaient le choix pour parler d'amour dans le vocabulaire grec, dans ce monde gréco-romain de l'époque. Ils avaient le choix entre, par exemple, le mot eros, qu'a donné érotique, on le sait, qui est l'amour sensuel, l'amour physique. Ils pouvaient parler de philia, de l'amour qui est plus l'amitié, l'amour entre des amis, ou de storgé, qui est l'amour familial, l'amour où on prend soin, où on fait attention à l'autre. Mais ils ont choisi un autre mot, ils ont choisi un mot courant à l'époque, le mot agapé, qui se caractérise par la spontanéité, par un véritable désir de se mettre à la place de l'autre. On parle d'empathie aujourd'hui, c'est se mettre à la place de l'autre. Une sorte, l'amour agapé, c'est une sorte d'élan vers l'autre. C'est l'amour de proximité, comme la police de proximité. Non, l'amour du prochain. Et les auteurs du Nouveau Testament ont choisi ce terme pour parler de l'amour de Dieu et de l'amour les uns pour les autres. Ils l'ont choisi, ils l'ont redéfini, ils l'ont augmenté, du fait qu'ils étaient inspirés par le Saint-Esprit pour le faire. Et parfois, on traduit ce mot par charité. Vous avez déjà lu les versions d'un Corinthiens 13 où c'est charité, la charité, etc. J'avais un ami, il est toujours un ami, à Pau, qui s'est donné au Seigneur à 52 ans. Il s'est fait baptiser à 52 ans avec d'autres gars de 50 ans aussi. C'était un magnifique moment. Mais il a mis longtemps, sa femme était chrétienne, elle priait pour lui depuis 30 ans. Et il me disait encore récemment que pendant de longues années, il n'a pas su que charité, c'était en fait l'amour. Et charité, ce n'est pas une super traduction, elle n'est pas mauvaise. Mais ça fait un peu vieillot, un peu bigot, alors que l'agapé est un amour dynamique, qui s'active, qui déménage même. Et il faut remarquer que dans sa liste, Paul utilise des verbes, et ce sont tous des verbes d'action. Par exemple, quand il est dit « l'amour est patient », ou parfois traduit par « l'amour est patient », en fait, il faut traduire par « l'amour prend patience ». C'est un verbe. L'amour prend patience. L'accent n'est pas sur un état d'amour, mais sur l'action d'aimer. Paul ne cherche pas à faire de la théorie sur l'amour ou de vendre du rêve pour jeunes filles en mal d'amour, mais encourager les chrétiens, encore une fois, à la pratique de l'amour, à l'agapé au quotidien. Et il va décrire non pas un concept d'amour désincarné et idéal, mais il va parler d'un homme, d'une femme, toi, moi, qui aime, d'un amour agapé, qui aime vraiment. Alors, pour se mettre en action d'aimer, on va passer rapidement en revue les 13 affirmations concernant l'amour agapé. Et on fera un petit exercice, soyez attentifs. D'abord, deux actions positives, ensuite quelques phrases négatives, dans le sens ce que l'amour n'est pas. Ensuite, l'amour se met en quatre, avec quatre affirmations final. Premièrement, donc on en a parlé, l'amour prend patience ou endure avec patience. L'amour qui supporte, l'amour qui s'accroche, l'amour qui n'abandonne pas la partie. L'amour est plein de bonté, mais c'est encore un verbe dans la langue originale. L'amour agit avec bonté, ou l'amour se met au service de quelqu'un, ou se met en service, en mode service dans sa vie. Dans l'Évangile, Jésus dit « Vous, au contraire, aimez de l'amour agapao, aimez vos ennemis, faites-leur du bien ». Faites-leur du bien, agissez avec bonté envers vos ennemis. Alors c'est qui nos ennemis? Moi je dis c'est ceux qui ne nous aiment pas particulièrement. Je ne pense pas que j'ai des ennemis qui veulent ma mort, mais je vois des gens qui ne m'apprécient pas particulièrement, pour qui je suis indifférent, je leur suis indifférent. Et faites-leur du bien et prêtez sans espoir de retour. Ça, c'est l'amour agapé. Alors, voilà une petite mise en bouche. L'amour prend patience, l'amour se met en service. Et puis, 8 petites phrases sur ce que l'amour n'est pas. Alors, on va pas tout passer en revue, ça serait un peu long, mais j'épingle encore quelques. Le numéro 1, celui qui aime n'est pas envieux. Parce que celui qui jette un regard d'envie, pour qui le bonheur ou la réussite d'un autre le dérange, lui donne envie, le rend jaloux, cesse d'aimer. L'autre devient un rival, un adversaire. L'esprit de compétition, c'est bien pour les sportifs, mais ce n'est pas ce qui est le meilleur pour ceux qui veulent aimer. Celui ou celle qui aime ne s'enfle pas d'orgueil. Il y en a plusieurs qui parlent de ces d'orgueil ou de vantardise. Et là, il est question d'enfler, de l'enflure. Et c'est très parlant pour parler de ce type gonflé de sa propre importance et qui regarde les gens d'en haut. En France, on parle de cheville hein, qui gonfle, qui enfle. Je ne sais pas pourquoi. En Belgique, et c'est beaucoup mieux, j'ai vécu 25 ans à Bruxelles, on parle du cou qui gonfle, de Dikkenek. Il y a un film d'ailleurs français qui parle de Dikkenek. Celui gonflé de sa personne ne peut pas aimer, puisque c'est sa personne qui est prioritaire et il est tout gonflé de sa propre personne. Le numéro 5, celui qui aime ne recherche pas son propre intérêt. Littéralement, ses choses siennes. Ça revient un petit peu à celui qui est gonflé de sa propre importance, mais là, c'est l'égoïsme qui est visé, celui qui cherche toujours quel avantage il pourrait tirer de cette relation. N'aime pas. C'est pas ça, l'amour. Celui ou celle qui aime ne s'irrite pas. Le numéro 6, le mot à donner pour irritation, le mot paroxysme, qui part dans le paroxysme de la colère, une certaine violence dans les réactions, et on imagine un individu susceptible, ombrageux, qui voit surtout, toujours et partout, des agressions contre sa personne, qui réagit de façon excessive aux contrariétés et aux provocations. Celui qui aime ne fait pas dans ce genre de comportement. Le 7, celui, celle qui aime, ne tient pas compte du mal. Et le terme « compte » est bien choisi. Alors, il ne s'agit pas d'être indifférent au mal. Vous savez, c'est pas une bonne expression de dire « il n'y a pas de mal ». Si, parfois, il y a mal. Tout ne va pas bien. Mais il s'agit de ne pas tenir un livre de compte sur tous les « sales coups » entre guillemets qu'une personne vous aurait fait. Vous savez, ce petit livret, ce calepin secret intérieur où on note tout, ce que son conjoint, ou son collègue, ou qu'une personne dans l'église, ou dans les groupes sociaux, vous aurait fait, et on le note. Mais celui qui aime ne tient pas compte de son livre de compte. Celui qui aime ne se réjouit pas de l'injustice, mais au contraire, mais il se réjouit de la justice et de la vérité. Et puis, l'amour se met en quatre. Quand on se met en quatre, c'est que on va loin. Et puis, il y a un petit mot, c'est le tout. Donc, Paul semble ajouter une petite couche pour encore plus nous décourager. Il va dire l'amour pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et donc, il faudrait conclure que nous sommes appelés à tout pardonner, à tout croire, à tout accepter, à tout supporter, et on se dit qu'il y aurait quand même une erreur. Pas d'erreur, mais peut-être une question de traduction, et le tout serait à comprendre par le mot « en toute occasion ». En toutes circonstances, comme l'a traduit la Semeur, comme on l'a lu tout à l'heure, il pardonne en toute occasion, il espère en toute occasion. Ou l'expression jusqu'au bout, il va jusqu'au bout. Celui qui aime pardonne tout, non pas dans le sens d'excuser trop facilement, c'est pas grave, rien n'est grave, il n'y a pas de mal, comme je le disais tout à l'heure, mais plutôt dans le sens où il n'y a pas de faute trop grave qui ne puisse être pardonnée. Pardonner jusqu'au bout, ce n'est pas excuser facilement la personne qui fait le mal, mais c'est ne pas l'enfermer dans un jugement qui serait sans espoir, qu'on appelle la condamnation. Celui, celle qui aime, croit tout, ça ne veut pas dire qu'il est crédule, qu'il gobe toutes les blagues qu'on lui fait, cela veut dire que celui qui aime d'un amour agapé n'est pas soupçonneux d'emblée. Il ne s'attend pas toujours au pire de la part des autres. Il ne faut pas de procès d'intention comme nous faisons souvent. Mais il fait confiance. Et il veut faire confiance aux autres. Et sans cette confiance, on ne pense qu'à se défendre des autres. On est sur la défensive toute sa vie et on n'aime pas. Et on n'aime pas vraiment. Aimer, c'est faire confiance en toute occasion, jusqu'au bout. Celui, celle qui aime, espère tout. Alors, espère tout, pas n'importe quoi pour fuir la réalité de la vie, mais il espère complètement, malgré tout et jusqu'au bout, l'installation du royaume de Dieu dans la vie des gens et dans le monde. Il ne perd jamais espoir que Dieu agira dans sa propre vie et dans celle des autres. Et donc, il ne désespère pas de lui-même, ni des autres, ni du monde, que Dieu aime tant et qu'il a tant aimé. Celui ou celle qui aime supporte tout. Alors il y a des choses insupportables dans la vie. des hommes qui battent leurs femmes, c'est insupportable. Des mères qui maltraitent les enfants, c'est insupportable, pour ne prendre que ces deux exemples. Et il y a donc des choses qu'on ne doit pas permettre, mais il s'agit encore une fois ici de l'endurance, de l'amour, de la persévérance, de la patience. Aimer sans tout permettre, mais de continuer à aimer. Alors, même en donnant des explications sur ce tout, cet amour agapé reste un petit peu au-delà de nos capacités, n'est-ce pas ? Et je vous avais parlé d'un petit exercice, un test de votre amour agapé. Et vous connaissez l'histoire de ces petites cases à cocher. Donc voilà les 13 affirmations de l'amour agapé. On passe notre amour agapé chacun au scanner ou à l'électrocardiogramme et on voit les cases. Qu'est-ce que vous pouvez cocher qui vous correspond ? Et les quatre autres pour arriver à 13. Alors, plus de 10 bonnes réponses sur 13, vous êtes vraiment en bonne voie. Moins de 5, il y aurait des progrès sérieux à faire. Si vous avez 0, il faut changer de religion. Alors c'est une blague. Justement, il ne faut pas changer de religion. Parce que la foi chrétienne, parce que c'est justement dans la foi chrétienne, dans une relation d'amour avec le Dieu d'amour manifesté en Jésus-Christ, que nous pouvons trouver un petit peu de cet amour-là, que nous pouvons toucher du doigt de cet amour agapé. Alors c'est clair, dans l'énumération, cet amour agapé est effectivement impraticable dans ma vie. Moi, je ressemble un petit peu à ce clown triste quand je pense à mon agapé. Ou à ce petit cœur avec un pansement. Ben, moi, j'ai été blessé dans la vie, donc j'ai un peu de mal à aimer. Impraticable au travail, à la maison, même en famille, même au sein du couple. Nous avons fêté à Noël nos 40 ans de mariage avec Yvonne. Et on a fait ça à Colmar-les-Alpes, 4 jours avec nos 3 enfants et leurs conjoints, avec Noël intégré. Mais j'ai fait un petit discours et puis ils nous ont préparé une petite soirée et notre fille aînée nous a dit « En tout cas, on a toujours su que vous vous aimiez. » Et pourtant, 40 ans de mariage, c'est beau, mais c'est long. Mais il y a eu des, et j'en ai parlé lors de mon petit discours, il y a eu des moments extrêmement difficiles. Il y a eu des belles disputes quand les enfants étaient tous les trois, ils avaient en dessous de 10 ans, où j'étais peut-être très ombrageux et susceptible. Et même notre fille, Tamara, qui a 36 ans maintenant, nous avait dit à l'époque, elle avait une dizaine d'années, « Vous n'allez pas divorcer ?» Et ça nous avait remis en question. « Ah ben non, c'est pas à l'ordre du jour. » Pour dire que l'amour agapé n'est pas un long fleuve tranquille. Pour le pratiquer sur la durée, et c'est pas, comme on disait aussi avant, c'est pas évident, même pour le meilleur d'entre nous, avec toute la bonne volonté du monde, ce n'est pas possible, mais rien n'est impossible au Dieu d'amour, qui se définit comme tel, dont l'amour fait partie de son être, de son essence, où l'amour est essentiel dans la vie de Dieu et qui nous permet, et cet amour de Dieu qui nous étreint, qui nous presse, nous permet de nous tenir debout dans cet amour, dans cette valorisation de notre personne, dans son pardon, dans sa grâce, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Et cet amour qui nous étreint, j'aime bien cette étreinte, nous permet de tendre, de toucher, de vivre un peu dans cet amour. Rien n'est impossible à celui qui croit, dit-on dans l'Évangile. Il n'est pas impossible d'aimer vraiment pour celui qui croit en ce Dieu d'amour. Celui qui aime, nous dit l'apôtre Jean, est né de Dieu. Sans lui, sans cet amour essentiel qui nous touche dans notre être, nous serions toujours tellement loin du compte et si rapidement dans le découragement. Mais Dieu est amour et il est l'éternel amour. Et Paul développe cela dans sa dernière partie, qui sera aussi la nôtre, l'amour plus fort que tout. L'amour toujours, le don de prophétie va passer. Celui des langues aussi, celui de la connaissance, etc. Mais l'amour ne passera pas, no passaran, comme on dit en Occitanie. L'amour rime avec toujours. Alors quand ces deux amoureux qui le disent sur un banc public en faisant autre chose, on peut se permettre d'avoir des doutes. Quand ils disent l'amour dira toujours, enfin, tu connais pas la vie, quoi. Mais quand c'est Dieu qui le dit, le doute, alors est toujours permis, hein. Mais le doute est moins permis quand c'est Dieu qui parle d'amour. Et la parole de Dieu nous parle de son amour déployé dans l'histoire, même pour un type comme Jérémie, le prophète Jérémie. Vous connaissez les Jérémiades, ça vient de Jérémie, parce que Jérémie est un mec qui se plaint tout le temps, qui gémit tout le temps, à tort ou à raison, souvent avec raison d'ailleurs, parce que c'est pas facile pour un prophète à l'époque. Et dans Jérémie 31, il va dire une parole de la part de Dieu extraordinaire. « Je t'aime, dit Dieu, d'un amour éternel. » Yahvé, celui qui est, nous dit « Je t'aime d'un amour éternel. » Et il le dit au peuple d'Israël, à travers le prophète Jérémie. Il le dit au peuple d'Israël qui est pourtant difficile à aimer. Mais je t'aime d'un amour éternel et je prends patience envers toi, peuple d'Israël, qui a la nuque raide, qui se souvient pas des bénédictions. Je t'aime d'un amour éternel, toi qui es peu aimable. Je prends patience avec toi, Eric. Je prends patience dans mon amour éternel avec chacun d'entre vous. Et plus tard, beaucoup plus tard, un autre témoin de l'amour de Dieu, l'apôtre Jean, dira « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie pour lui, qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Et on passe du monde, il a tant aimé le monde, à l'individu, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et on peut mettre son nom à la place du monde. Amour qui se donne pour moi, qui recherche l'intérêt de l'autre. L'amour de Dieu qui cherche l'intérêt de l'autre. Et cet autre, et c'est fantastique, c'est moi, c'est toi. Un amour gratuit, un amour désintéressé, un amour agapistique, comme on peut lire dans les livres savants, c'est horrible. Mais c'est l'amour de Jésus. Et on n'est pas dans l'amour courtois. On n'est pas dans l'amour romantique, on n'est pas dans le roman à l'eau de rose, on est là dans une autre dimension d'un amour du troisième type, une dimension éternelle, une dimension surnaturelle, un amour qui surpasse toute autre chose, et c'est cet amour-là qui reste, l'amour au final. La foi, c'est tellement important pour donner sa vie au Seigneur. L'espérance, c'est très important pour survivre dans ce monde, en sachant que notre avenir est en lui. Mais ces choses-là, oui, mais c'est l'amour qui est éternel, parce que quand nous serons avec lui dans la consommation finale, quand nous serons avec lui au ciel dans une nouvelle aventure, où toutes choses seront nouvelles, eh bien la foi et l'espérance seront comme inutiles puisque nous le verrons face à face, tel qu'il est. Mais l'amour restera l'amour, l'essentiel de la relation avec lui et avec les autres dans cette aventure que nous vivrons avec lui et les uns avec les autres. L'amour restera parce que l'amour est essentiel. Plus besoin d'espérance, plus besoin de foi, puisqu'on y est. L'amour plus important, même que la foi et l'espérance, qui auront fait leur temps à la fin des temps. L'amour rime avec toujours. Oui, avec Dieu, c'est sûr. Et parce que cet amour-là nous presse et nous étreint, alors on va chercher à le manifester dans notre vie également, et c'est ce qui amène Paul à dire au chapitre 14, « Ainsi, recherchez avant tout l'amour. » Pas tellement les dons, en fait, l'amour. Poursuivez même l'amour. Et dans le verbe grec pour « poursuivre », ou rechercher l'amour, ça a la signification de poursuivre dans les moindres recoins. Je ne sais pas si vous avez vu ce film « No Country for Old Men » du XXe siècle aussi, hélas, avec Javier Bardem. Vous vous souvenez ? C'est un film... Non, pas tellement. Mais c'est un film costaud, c'est pour les grands, ça. Mais en même temps, il cherche une valise remplie de millions de dollars. Et Javier Bardem fait peur. Moi, j'ai eu des cauchemars après. Mais quelle ténacité, quelle pugnacité, quelle persévérance pour rechercher cette valise. Ça tire dans le film, dans tous les coins. Ils poursuivent cette valise. Il nous est demandé la même chose. Comparaison n'est pas raison. La même chose pour poursuivre l'amour. Poursuivez l'amour parce que l'amour de Dieu est sur vous, et puisque l'amour de Dieu vous étreint le cœur, vous presse d'aller en parler autour de vous, peut-être même plus qu'en parler, le montrer, le mettre en œuvre. Et je vous propose, j'ai trois suggestions pour terminer, pour mettre en pratique, en route pour la poursuite de l'amour. Je vous invite à lire la Bible et à relever toutes les manifestations de l'amour de Dieu. Vous avez pris peut-être un livret pour la lecture de la Bible en 4 ans. Eh bien, un petit carnet à côté, puis on note tout ce qui est dit sur l'amour de Dieu. Et peut-être, je ne l'ai pas écrit, priez le chant qu'on a chanté ce matin sur Saint-Esprit, viens nous bouger. En lisant la parole, viens nous toucher par cet amour. Et puis, deuxièmement, passer son amour au scanner d'1 Corinthiens 13 et prier pour que le Saint-Esprit comble les cases vides d'amour. Et il y a du boulot. Et puis poser dans les prochains jours ou semaines, on ne va pas parler d'années quand même, semaines au maximum, des actes simples d'amour désintéressé. Poser ses actes. Il y a Mégane qui va s'approcher pour un temps de harpe. Allez, mettez-vous devant le Seigneur et pensez à votre amour agapé, peut-être nos faiblesses comme les miennes, d'amour et ce désir d'aimer mieux, d'aimer vraiment, d'abonder dans son amour.